I don't know of any program in Uganda.
Of course not.
يصلون الليل بالنهار استعدادا.
¿Cuál sería su reacción?
21 веке гражданка Райс вспомнила.
这两天原本居住在祁连县偏远牧区的牧民南家
正忙着。
Todos juntos.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à 11h50. Une émission préparée ce matin par Xavier Martinet, mais aussi Clémence Alezard, Tiffaine de Rocchini, Hélène Paquet, réalisée par Charles Le Gargasson et mise en onde ce matin par Jacques Hubert. Troisième volet de notre série consacrée aux dissidences. L'occasion, c'est la parution du livre de Michel Itchaninov sur les nouveaux dissidents paru chez Stock aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de la Turquie. Alors que Bruxelles s'apprêtait à vivre un nouvel attentat, la Turquie, elle, se remettait tout juste d'un nouvel acte terroriste à Istanbul le week-end dernier, faisant 39 morts à İstiklal, la grande avenue touristique à quelques pas de la place Taksim, la même place qui, au printemps 2013, était le théâtre d'une colère profonde de la part d'une partie de la société turque usée par les pratiques d'un régime en pleine dérive autocratique. Depuis ces manifestations, eh bien, les choses ne se sont pas arrangées. Au contraire, elles se sont même plutôt aggravées. Turquie, Égypte également, dont nous parlerons, le pari de la tension.
Je suis ici à cause de la censure sur la presse et en raison de la situation qui règne ici, au nom de la démocratie et en raison de cette cruauté contre la presse. Je ne veux pas être du côté de la cruauté.
Il est impossible de ne pas critiquer le gouvernement actuel en Turquie. Il est autoritaire, la façon dont ils ont interdit Twitter, YouTube. Il est impossible d'être quelqu'un d'honnête et de ne pas critiquer ce gouvernement en raison de ce qu'ils font aux droits de l'homme, contrôle des médias et liberté d'expression.
C'est un fait que la période que nous traversons est pire que les années 90, surtout quand vous voyez ce qui est arrivé à Tahir Elçi, dit cette avocate. Le traitement qu'il a reçu après avoir donné son opinion en public nous montre qui sont les vrais meurtriers, accuse-t-elle, faisant allusion aux autorités.
Avocat, journaliste, écrivain, défenseur des droits de l'homme, militant kurde, tous sont la cible régulière d'un régime en pleine dérive autoritaire. Il y a quelques jours seulement, la presse turque indépendante vivait une véritable humiliation. En effet, l'un des principaux quotidiens de l'opposition, Zaman, a vu débarquer les policiers dans ses locaux. Sous tutelle judiciaire, son site internet a été coupé, ses journalistes remplacés, son rédacteur en chef évacué. Zaman a désormais adopté une ligne éditoriale pro-régime. Dès le lendemain, les kiosques proposaient une version normalisée, pro-régime, dans laquelle le nouveau sultan apparaît. C'est en une les articles de la nouvelle mouture faisant l'apologie de la politique de son parti, l'AKP. Certains essayent de résister à cette pression du régime. C'est le cas par exemple de Can Dündar, rédacteur en chef du quotidien d'opposition Cumhuriyet, libéré fin février après que la Cour constitutionnelle a rendu un jugement en sa faveur. Il est en attente d'un nouveau procès qui s'ouvrira en fin de semaine. On le retrouvera au cours de cette émission. On va tenter de comprendre la situation délicate dans laquelle se trouve la Turquie aujourd'hui entre vagues terroristes, celles liées à l'État islamique, celles liées à la nouvelle guerre lancée aux rebelles kurdes, la crise des réfugiés, les difficultés économiques, dans quelle mesure les ambiguïtés du président Erdogan peuvent-elles expliquer cette situation et comment les voix dissidentes peuvent-elles peser dans un tel contexte. On s'intéressera également à l'Égypte, un pays où les militaires ont retrouvé le pouvoir depuis le coup d'État de 2014, qui a destitué le président Morsi, issu des rangs des frères musulmans. On se demandera ce qui reste de cette dissidence égyptienne. On retrouvera tout à l'heure Hussein El Ghaneni, qui est un journaliste égyptien. Mais pour nous accompagner dans ce troisième volet consacré aux nouvelles dissidences et pour évoquer le cas de la Turquie en particulier, c'est Ahmet İnsel qu'on reçoit ce matin. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes économiste, politologue et puis vous êtes ancien professeur à l'université de Galatasaray et maître de conférence à Paris 1. Vous êtes l'un des signataires avec d'autres intellectuels d'un appel urgent au président turc pour la cessation des violences au Kurdistan. Vous avez également été l'éditeur, je le note parce qu'on en parlera probablement, de l'écrivain Orhan Pamuk. Voilà pour les présentations. Ahmet İnsel, bienvenue ce matin dans Culture Monde. Le jour du nouvel accord entre Ankara et Bruxelles sur les migrants, donc prévoyant de reconduire en Turquie les réfugiés débarqués sur les îles grecques, et alors que la Turquie est en pleine vague d'attentats kamikazes, le président turc avait déclaré « Il n'y a pas de raison que la bombe qui explose à Ankara n'explose pas un jour dans une autre ville d'Europe. » Au lendemain des attentats de Bruxelles, Ahmet İnsel, ses paroles résonnent un peu curieusement, et on se dit que cette menace djihadiste, mais aussi la crise des réfugiés, qui n'est évidemment pas sans lien, puisqu'elle découle également de ce conflit syrien, eh bien, d'une certaine manière, donne raison à Erdogan et constitue peut-être une funeste opportunité pour le président turc de retrouver une place sur la scène internationale. Vous avez le même sentiment ?
Oui, en partie, mais c'est une place funeste. Et lui, il pense pouvoir transformer cette place comme une jante stratégique. C'est une vieille tendance de l'État turc d'utiliser toujours sa situation géographique au milieu des tensions, de le transformer en une situation d'exception et d'utiliser comme une rente. Ça, c'est, et je crois que là, dans le cas d'espèce, Tayyip Erdogan, comme dans le problème kurde aujourd'hui, a totalement s'est mis dans les chemins de la logique classique de l'État turc. Évidemment, les paroles sont malheureuses à propos. Vous verrez aussi peut-être vous dans l'avenir. Ce sont des propos malheureux. Il faut dire une chose d'abord, c'est que Tayyip Erdogan, c'est quelqu'un qui parle beaucoup, trop. Il parle en permanence. Il essaie de combler totalement, de couvrir l'espace politique par la parole. Il parle tous les jours, à toutes les occasions. Et comme en plus...
C'est un moyen de couvrir la voix des dissidents.
C'est le moyen de couvrir la voix des dissidents. C'est le moyen aussi de donner, de diriger... directement, à défaut de pouvoir diriger directement son parti, parce que maintenant il est président de la République, il est censé ne pas être président du parti, de diriger son parti, son mouvement, de mobiliser autour de lui ses électeurs et de faire en sorte que le parti en question soit non pas un parti politique de masse, mais un parti totalement inféodé à lui. Et en même temps, il a réussi à transformer l'État comme un État à Kepi. Donc, parfois, il parle trop et le fait qu'il parle trop, en même temps, lui permet de couvrir l'espace politique, mais en même temps de dire énormément de choses bêtes.
Un mot peut-être sur l'accord sur les réfugiés, parce que depuis dimanche, de nouvelles conditions s'appliquent pour les personnes arrivées sur les îles grecques, je le disais. Si elles ne demandent pas l'asile, elles sont renvoyées immédiatement. En tout cas, ça c'est pour la théorie du côté de la Turquie. Quel regard vous portez sur ce nouvel accord et est-ce qu'on peut en attendre une quelconque efficacité ?
D'abord, il y a le principe. Le principe est lamentable parce que là, nous sommes en train de détruire... un principe fondamental qui a été mis en place au début des années 50 avec la Convention de Genève, la protection des réfugiés. Et aujourd'hui, on peut discuter sur le statut de réfugié réclamé par des gens qui viennent de l'Irak peut-être ou de l'Afghanistan, mais de la Syrie, c'est indiscutable. Quelqu'un qui fuit la Syrie, fuit la guerre, fuit une vraie terreur généralisée. Et par conséquent, s'il y a une définition indiscutable d'aujourd'hui qui est réfugié politique, c'est un Syrien. Et donc, on va refuser le statut de réfugié politique à quelqu'un qui est indiscutablement réfugié politique.
S'il ne demande pas l'asile.
S'il ne demande pas l'asile.
Mais en l'occurrence, à la Grèce.
Oui, mais s'il demande l'asile, qu'est-ce qu'on va faire ? Il reste en Grèce et il va être envoyé quelque part.
Mais normalement, vous savez, il y a une fameuse clé de répartition. On a prévu des accords qui devraient permettre de répartir ces réfugiés au sein de l'Union européenne.
Le haut commissariat réfugié, justement, à propos de cet accord qu'il trouve, le haut commissariat réfugié trouve l'accord lamentable, c'est l'instance internationale le plus compétent en matière de réfugiés. Le haut commissaire des réfugiés dit en même temps que l'Europe est engagée cet été à relocaliser 160 000 personnes. Il dit au jour d'aujourd'hui, lundi dernier, il y a deux jours, au jour d'aujourd'hui, 22 pays avaient proposé 7 000 places, plus précisément 7 015, et seuls 953 demandeurs d'asile.
Il y a un millier de personnes, effectivement, qui ont été réparties alors que l'accord prévoyait 160 000. C'est doublement lamentable.
C'est lamentable. Donc, comment vous voulez que ça marche? Parce que il y a 2,5 millions de réfugiés syriens en Turquie. Et il y a à peu près 800 000 à 1 million qui sont arrivés en Allemagne. Et évidemment, une partie très importante des réfugiés syriens en Turquie ont des amis, des proches, des parents qui sont en Allemagne, qui sont en Suède. Et quoi que fasse l'Europe, ils creuseront des tunnels, ils essaieront de voler, de nager, mais ils essaieront d'arriver en Europe.
On parle cette semaine à Matinsel des dissidents. Il y a quelques semaines, vous avez signé un appel avec 1200, je crois, intellectuels. 1150 intellectuels qui demandaient l'arrêt des opérations contre les Kurdes. Le texte visait à briser le silence entourant cette opération contre la rébellion kurde du BKK. Il demandait également une relance des négociations. Ce massacre délibéré et planifié, je cite, est une violation grave du droit international, des lois turques et des obligations qui incombent à la Turquie en vertu des traités internationaux dont elle est signataire. Voilà ce qu'on lisait entre autres dans le texte. Il y a une vingtaine d'universitaires qui ont été arrêtés tout de suite après la publication de ce texte. La plupart, je crois, ont été relâchés. Erdogan avait signifié son soutien à cette traque, disons-le. Ceux qui se rangent dans le camp des cruels sont eux-mêmes cruels et ceux qui soutiennent les auteurs de massacres sont complices de leurs crimes. Vous faites donc partie de ces cruels, Ahmet Insel.
Alors, pour Tayyip Erdogan, aujourd'hui, comme tout autocrate, il y a lui et le reste en face de lui. Ceux qui le soutiennent sont la nation, le peuple, les bons. Et ceux qui sont en opposition à ses actions, à ses projets, c'est l'ennemi. La plupart du temps, les autocrates survivent à mobiliser, à polariser la société entre nous et les ennemis, et les ennemis intérieurs. Et ça, c'est un cas de figure général. Et Tayyip Erdogan, de ce point de vue-là, est quelqu'un qui use et abuse de cette logique de polarisation. Et effectivement, il a pu créer en Turquie d'aujourd'hui les conditions d'une sorte de guerre civile symbolique. Guerre civile symbolique au sens où tout le monde n'est pas en train de s'entretuer, mais dès lors qu'il y a une conception d'ennemi intérieur, nous sommes dans une logique de guerre civile. Parce que ennemi intérieur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui risque de vous détruire. Donc du coup, avant de qu'il réussisse, c'est vous qui a essayé de le détruire, et il utilise la justice comme un moyen de répression systématique.
Et d'ailleurs, certains signataires justement de ce texte ont des problèmes aujourd'hui avec la justice, et certains sont derrière les barreaux, vous me disiez encore.
Trois signataires de ce texte, trois universitaires, des collègues, qui ont fait le 12 mars une conférence de presse en disant nous continuons à soutenir cet appel, et il y a une urgence à faire la paix, parce que depuis cet appel, il y a eu encore beaucoup de morts, d'affrontements, d'exactions, y compris du côté du PKK aussi. Et ils ont été immédiatement interrogés, et à l'issue de l'interrogation, le procureur leur a demandé leur arrestation.
Qu'est-ce qui posait problème dans le texte ?
Pour le gouvernement, ce qui pose problème, c'est la qualification que vous avez signalée tout à l'heure, c'est-à-dire des massacres planifiés, délibérés. Initialement, Tayyip Erdogan a dit, oui, ce sont des gens qui sont sous ordre du PKK. Travaille pour criminaliser l'action légitime des pouvoirs, les forces de l'ordre turques. Et il a même dit, il prépare le terrain pour que la Turquie soit déférée devant le tribunal pénal international.
Mais est-ce que de ce point de vue-là, alors il n'y a pas une erreur du point de vue des signataires? Certains observateurs considèrent que le texte n'était peut-être pas suffisamment nuancé, que peut-être en rappelant par exemple la responsabilité également du PKK dans l'escalade de la violence, il y aurait peut-être pas eu toutes ces arrestations. Certains disent que ça manquait d'équilibre. Vous comprenez cette critique?
C'est possible.
Vous dites c'est possible.
Non, mais c'est possible. Mais ils auraient pu. Les rédacteurs de ce texte que je connais pas, moi, j'ai signé quand il y avait déjà 250 signatures. Il est possible que les rédacteurs auraient pu utiliser un terme plus neutre. Mais n'oublions pas que.
Et rappeler la responsabilité du PKK.
Oui, mais il y a une chose qui était importante, c'est que nous, en tant que citoyens en Turquie, nous demandons des comptes à l'État. Nous demandons des comptes en tant que citoyens à nos élus. Le PKK n'est pas notre interlocuteur. Nous n'avons pas de contact direct avec les PKK. Nous, ce n'est pas notre interlocuteur. Nous avons le droit de demander des comptes à notre État, à notre gouvernement.
Et mais peut-être qu'en le disant justement dans le texte, vous seriez épargné des problèmes.
Oui, probablement, mais bon, ça n'a pas été fait et il faut quand même reconnaître que dans le cadre de la jurisprudence de la Cour des droits de l'homme, une critique, même blessante, une critique politique, même blessante, même exagérée, est considérée comme fait partie de la liberté d'expression.
Pourquoi est-ce que vous n'avez pas eu de problème, vous ? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas été arrêté, à votre avis ?
Bon, il y a sur 1150 personnes, pour le moment, il y a 3 personnes qui sont arrêtées. Le procureur continue à faire les enquêtes. Je ne sais pas, je pense que ils ont compris qu'ils ne peuvent pas probablement arrêter 1150 personnes. Donc, ils essaient de trouver, je crois, un peu les chefs de file ou ceux qui se mettent en avant. Ils ont essayé de tourner autour de moi via quelques journalistes pour savoir si c'est moi qui a
initié,
qui a rédigé le texte. Bon, c'était pas le cas, donc du coup ils sont arrêtés là.
On va tout à l'heure parler de la pression sur les journalistes, mais on va poursuivre un petit peu sur cette question kurde.
Yes, particularly in social media.
Oui, j'ai reçu des menaces de mort, particulièrement sur les réseaux sociaux. J'ai eu des centaines de tweets qui parlaient de mon assassinat. Et certains tweets décrivaient même comment ils me tueraient. Ils donnent des détails sur mon propre meurtre. On a aussi des tonnes d'appels. Normalement, s'exprimer n'est pas si dangereux. Mais si vous parlez de certains sujets sensibles, comme le génocide arménien, les Kurdes, le PKK, le terrorisme, les quelques tabous de l'idéologie officielle, si vous essayez de franchir cette ligne rouge pour le gouvernement ou l'État, vous aurez des problèmes.
Cette voix, vous la connaissez, Ahmet İnsel, c'est celle de Tahir Elçi.
Oui.
Avocat turc d'origine kurde, particulièrement connu en tant que défenseur de la cause kurde et des droits de l'homme. En novembre dernier, il a été tué par balle. Ça a été un terrible choc pour toute la communauté kurde. Il y a des milliers de personnes qui ont assisté à ses obsèques à Diyarbakır, scandant les martyrs ne meurent pas, Tahir est immortel. Il y a eu des polémiques autour de sa mort, Ahmet İnsel. Les uns disant qu'il était mort dans une fusillade, les autres considérant qu'il avait été assassiné. Votre regard sur sa mort, est-ce que c'est l'assassinat d'un dissident par un État en pleine dérive ou est-ce que c'est une victime collatéral dans un conflit opposant Kurdes et État central?
Je pense que nous ne saurons jamais la vérité sur cette question parce que toutes les traces ont été à peu près effacées et les deux sont possibles. Quand on regarde comment malheureusement Tahir a été tué, il est possible qu'il soit tué par une balle perdue lors d'un affrontement. Il est resté au milieu d'un affrontement entre des militants du PKK et les policiers qui étaient inattendus à ce moment-là. Il est possible qu'il soit mort par une balle perdue. Il est possible aussi que quelqu'un a trouvé cette occasion pour le descendre. Nous ne le saurons pas, mais le problème, c'est que Tahir était, avant qu'il soit mort, assassiné, ou mort par,
Il était une cible désignée, et il le dit là.
Il était une cible désignée.
Pourquoi?
Ah. Parce que, un mois et demi avant cet funeste événement, Tahir Elçi était à la télévision dans une émission en direct sur la grande chaîne d'information CNN et on lui a posé la question si le PKK est une organisation terroriste. Et Tahir a essayé d'expliquer que PKK, on ne peut pas qualifier PKK comme organisation terroriste, que c'est une organisation à la fois une dimension politique, revendication politique d'encadrement, etc.
Mais que parfois, il réalisait des actes terroristes. Absolument.
Ouais. Et là, c'était le déchaînement.
Et est-ce que c'est pas ça, justement, ce qui était visé? La modération?
Oui, évidemment. De toute façon, il y a eu une enquête judiciaire contre Tahir pour avoir dit ces choses qui sont parfaitement justes, et s'il n'était pas tué ou mort dans cet événement, probablement Tahir allait être inquiété d'une manière beaucoup plus sérieuse par les tribunaux. La répression.
Donc le désir de faire taire la voix des modérés pour ne laisser apparaître que celle des plus radicaux.
C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est la stratégie de polarisation. Plus il y a des gens qui prônent la violence, les moyens violents comme moyen d'opposition, de résistance vis-à-vis du pouvoir, plus le pouvoir se sent à l'aise dans ce terrain.
Dans cette polarisation, justement. Je parlais tout à l'heure de l'attentat de samedi dernier. A priori, l'auteur devrait être un Kurde qui serait lié au groupe de l'État islamique. Mais celui qui a touché Ankara une semaine plus tôt et qui a causé la mort de 36 personnes, rappelons-le, a été revendiqué, lui, par les Faucons de la Liberté du Kurdistan, en représailles aux opérations menées par l'armée, par la police turque, contre la rébellion dans un certain nombre de villes de ce sud-est anatolien. Plusieurs questions. Quels sont les liens entre les Faucons de la Liberté et le PKK? Et quelle est la responsabilité aussi de ce groupe dissident? Parce que c'est ça, c'est un groupe dissident du PKK dans l'escalade de violence qui déchire le pays.
D'abord, votre dernière définition, je suis plus réservé sur la qualification dissidente pour le TAC, pour les Faucons
de la Liberté du Kurdistan.
Liberté pour le Kurdistan. Je pense plutôt une sorte de sous-marin. Qu'une dissidence. Il peut y avoir des gens...
Mais il y a une véritable scission en 2004 entre ce groupe-là et le PKK.
Mais après, le PKK a récupéré le contrôle en grande partie. La plupart, par exemple, la jeune femme qui était à l'origine de cette action à Ankara était en 2013 universitaire, en première année d'université à Balıkesir, et elle a disparu parce que il y a eu une enquête sur elle comme militante du PKK, etc. Donc, je pense que la dissidence n'est pas le facteur dominant du TAC, c'est plutôt une organisation fédaïne que PKK téléguide en grande partie, peut-être pas dans le détail des actions, hein, ils ne décident pas comment ils vont faire, où et dans quel cadre, mais ils téléguident les actions du TAC en grande partie pour pouvoir mener aussi ce chantage.
Et d'ailleurs, on ne sait pas grand-chose de l'organigramme de ce groupe.
Et Tahir Elçi était visé aussi, était critiqué aussi par le PKK en grande partie parce qu'il prenait aussi, le jour où il est mort, il demandait que la violence s'arrête parce que cette ville historique est détruite. C'était ses derniers mots. Il disait, nous ne voulons pas ici aucune violence, aucun kalachnikov, aucun fusil, et il s'adressait à la fois aux forces de l'ordre et au PKK.
Alors, il y a le TAC, il y a les Faucons de la Liberté, vous parliez de sous-marins, et puis il y a les navires beaucoup plus visibles, ceux-là. Et je pense là à Selahattin Demirtas, leader du parti pro-kurde. On est là on est en juillet 2015, donc entre les deux scrutins pour les législatives. Et c'est à un moment où nombre des membres du HDP, son parti, font l'objet d'enquêtes judiciaires. Écoutez.
Le procureur ne trouve rien à charge dans le dossier parce que même le procureur sait pertinemment que nous n'avons rien à nous reprocher. Cette procédure n'est pas nouvelle, mais dans le contexte actuel, le gouvernement veut absolument mettre cette affaire en avant. Si nous avions la conviction que nous sommes un obstacle pour la paix, nous abandonnerions nos fonctions pour que la paix se fasse. Mais nos sièges au Parlement ne sont pas le problème. Un gouvernement minoritaire ou des élections anticipées peuvent être considérées, cela fait partie de notre système démocratique. Nous n'avons rien à redire à ce sujet. Il faut que le peuple vive en paix et nous respecterons le choix du peuple. Ce n'est pas nous qui ne respectons pas la volonté du peuple. On sait très bien qui ne respecte pas la volonté du peuple depuis les dernières élections. Mais notre priorité n'est pas de compter les votes. Notre priorité à nous, ce n'est pas les urnes. Des gens meurent, ils meurent.
Voilà, donc Selahattin Demirtas, leader du parti pro-kurde, le HDP. Alors je répète, je remets peut-être le contexte pour les auditeurs. L'année dernière, les Turcs sont allés deux fois aux urnes pour les législatives. La première fois, c'était au mois de juin. L'AKP n'était pas parvenu à remporter la majorité. Le HDP, justement, de Demirtas, avait... je dis pro-kurde, mais en réalité qui a assez largement élargi sa base, avait réalisé une percée absolument inédite, je crois, 13% des voix, quelque chose comme ça.
13% des voix, 80 députés.
Et puis quelques semaines plus tard, finalement, l'AKP avait finalement réussi à obtenir
quelques mois
la majorité, alors que le HDP, au contraire, avait perdu des voix. Pourquoi, dans ce contexte-là, dans cette dérive du régime dont on parle depuis 11 heures, Ahmet İnsel, eh bien, l'opposition politique ne parvient pas à bénéficier de tout cela? Pourquoi il est incapable d'en tirer les gains aux élections?
Parce que l'opposition est très hétérogène. AKP reçoit à peu près 45-50% des voix. On a l'impression qu'en face, il y a 50%. Mais en fait, il n'y a pas 50% en face. Il y a l'extrême droite nationaliste qui est encore plus opposée à la résolution du problème kurde par la paix que l'AKP et qui représente à peu près 15%. Le HDP qui représente un peu la gauche, nouvelle gauche démocratique pro-kurde, mais en même temps qui réunit un peu la gauche du mouvement Gezi, dont on a parlé tout à l'heure.
On va en reparler.
Il a pu atteindre jusqu'à 13%, mais pas plus. Et il y a le parti de centre-gauche social-démocrate timoré, le parti républicain du peuple, le vieux parti républicain du peuple.
Mais il ne pourrait pas y avoir une coalition, disons, je ne sais pas si c'est un qualificatif correct, mais un camp laïque qui s'unirait autour de l'AKP, contre justement l'AKP. Mais
comment mettre en place dans le même gouvernement l'extrême droite nationaliste et le HDP ? Et si on ne met pas les trois ensemble, il n'y a pas de majorité. Donc AKP, c'est quand même un bloc. Quand vous avez 45-50% des voix, même 40% des voix, même si vous n'avez pas la majorité, vous empêchez aussi la formation d'autres majorités. Et ce qu'il a fait Tayyip Erdogan, en empêchant la formation d'une coalition gouvernementale qui aurait pu une solution, une grande coalition à la manière allemande entre le parti AKP et le parti républicain du peuple, par exemple.
Et est-ce que vous diriez que ce qui a fait que précisément l'AKP est parvenu à remporter finalement la majorité et à gagner des voix par rapport au mois de juin, c'est justement le pari de la tension dont on parle, c'est la guerre contre les Kurdes.
C'est la guerre contre les Kurdes, c'est moi ou le chaos. Tayyip Erdogan a dit ouvertement, vous nous avez pas donné 400 députés alors que on aurait pu résoudre tous ces problèmes autrement dit, Tayyip Erdogan joue systématiquement la carte du moi au chaos et le coût de cette réussite électorale du 1er novembre de Tayyip Erdogan, le coût humain est élevé, il y a à peu près 600-800 morts.
Le chaos. Les racines du chaos, elles sont où? Parce qu'on se souvient de ce mouvement, j'en parlais tout à l'heure dans mon introduction de 2013, qui avait gagné en réalité l'ensemble du pays, qui était parti de ce sit-in autour de la destruction du parc Gezi, sur Taksim, ce projet immobilier prévoyant la reconstruction d'une caserne historique qui devait accueillir un centre commercial, mais finalement tout ça s'était généralisé. Erdogan, on s'en souvient, avait opposé une réponse extrêmement musclée, violente,
disproportionnée
face aux manifestants. Vous diriez que c'est là la rupture, c'est là le début du chaos, le début du glissement autoritaire, ou finalement il est plus ancien?
Le glissement autoritaire est plus ancien. Le glissement autoritaire, moi je le situe plutôt à partir de 2008-2009, ce qui s'accélère en 2010-2011 quand il commence à se rendre compte que plus il durcit, plus il arrive à réussir à augmenter ses voix. Mais le mouvement Gezi, c'est le mouvement de rupture. C'est le mouvement de rupture où il se rend compte qu'il y a dans la société turque un risque social, un mouvement social qui peut le mettre en minorité, en péril. Et d'ailleurs, les dirigeants de AKP, ils vont dire pour le mouvement Gezi, on a eu l'impression que le tapis était tiré sous nos pieds. Ça glissait, on n'arrivait plus à contrôler. Et Tayyip Erdogan va reprendre le contrôle des choses par accusant les mouvements Gezi de fomenter un coup d'État. C'est inimaginable, mais il va vraiment essayer de faire des enquêtes judiciaires avec l'accusation de fomenter le coup d'État, parce que cela signifie pour sa base électorale, coup d'État, c'est les laïcs, c'est les militaires.
Mais pourquoi il a cette peur alors que dans les urnes, ça se passe très bien pour l'AKP? Mais il est quasiment au fait de
normalement, vous avez raison. Un parti qui après
2010-2011, ça va très bien électoralement pour l'AKP.
Mais ça, c'est le grand problème des autocrates. Les autocrates ne savent pas. À un moment donné, il faut pouvoir aussi reculer pour négocier. Et les autocrates ne savent pas reculer, parce que reculer pour eux, c'est perdre la face, perdre l'autorité. Et beaucoup de dirigeants d'AKP avaient conseillé à Tayyip Erdogan, au moment de Gezi, d'arrêter. Parce que ça, c'était disproportionné, vraiment.
Mais il n'a pas entendu.
Mais il ne peut pas. Il peut pas.
Parlons des journalistes dissidents. Le 6 mars dernier, le quotidien Zaman, traditionnellement anti-Erdogan, a sorti sa première une après le limogeage de la précédente équipe. Il était question du projet de ce pont entre la rive européenne et la rive asiatique, mais aussi des martyrs tués lors d'affrontements avec les rebelles kurdes dans le sud-est du pays. Ça y est, Zaman est entré dans le rang et a rejoint la cohorte des quotidiens pro-gouvernementaux. On ne peut plus écrire des choses contre Erdogan en Turquie?
Le quotidien Zaman était pro-gouvernemental avant la rupture de l'alliance de la communauté Gulen avec AKP. Et c'est depuis quelques années où il y a eu une sorte de guerre fratricide énorme entre les musulmans, les conservateurs turcs, que Zaman est devenu un cible. Comme d'autres entreprises de ce mouvement, de ce courant, et nous arrivons à publier une presse critique en Turquie. Le journal Cumhuriyet continue, il y a le journal Bir Gün, etc. Le problème, c'est moins la presse écrite. Le problème, c'est la télévision. Le contrôle de la télévision par le pouvoir est quasi total. Il n'arrive pas totalement à contrôler la presse encore, mais au niveau des médias audiovisuels, le contrôle est total. D'ailleurs, c'est un contrôle intelligent parce que l'efficacité d'influence de la télévision est incomparablement plus importante que l'efficace de la presse écrite.
France Culture, Culture Monde par Florian Delorme.
Culture Monde cette semaine autour des nouvelles dissidences à l'occasion de l'apparition du livre de Michel Etchaninov, Les Nouveaux Dissidents. On est avec Ahmet İnsel et d'ailleurs je n'ai pas encore mentionné votre livre, Ahmet İnsel, paru l'année dernière, La Nouvelle Turquie d'Erdogan, du rêve démocratique à la dérive autoritaire, qui était paru à la découverte. D'ailleurs je crois que dans le titre originel vous auriez bien voulu qu'on dise plutôt Le Nouveau Sultan, mais bon, c'est un autre sujet.
Et l'éditeur qui voulait, moi j'ai résisté.
Alors parmi tous les domaines qui subissent des pressions, la presse est peut-être l'un des plus touchés. Les lois sur les insultes au président ou sur la propagande terroriste votée par l'AKP il y a presque 10 ans avait déjà conduit à plusieurs affaires en justice, mais depuis quelques mois particulièrement la pression s'est accentuée à la fois sur le versant judiciaire, policier, mais aussi de la part de la rue elle-même, puisqu'il y a quelques temps ce sont des manifestants partisans de l'AKP qui avaient incendié les locaux du quotidien Hurriyet, c'était à la fin de l'année dernière. Il y a eu Milliyet, Zaman dont on parlait, fermé et puis repris par des journalistes d'État. Dans ce paysage, Cumhuriyet est un symbole de la presse indépendante de la Turquie. Son chef de bureau à Ankara et son rédacteur en chef Kandundar avaient été arrêtés en décembre au motif d'espionnage et de divulgation de secrets d'État. Ils risquent la prison à vie. Ils ont été libérés au début du mois, mais le jugement va avoir lieu vendredi prochain. Pour Kandundar, donc le directeur de la rédaction de ce quotidien, la situation du journalisme en Turquie n'avait jamais été pire depuis la dictature militaire des années 80. On retrouve Kandundar au micro de Xavier Martinet.
Well, in fact, Turkey has never been a paradise for journalists.
À vrai dire, la Turquie n'a jamais été un paradis pour les journalistes. Mais la situation n'a jamais été aussi mauvaise depuis la fondation de la République. Déjà, à l'époque de la dictature, les journalistes étaient l'objet de pressions de la part du pouvoir. Mais même à ce moment-là, les pressions n'étaient pas aussi intenses qu'aujourd'hui. En fait, le président Erdogan est devenu si braqué qu'il ne peut tolérer aucune critique et les prend comme une insulte personnelle. C'est pourquoi de plus en plus, la Turquie d'aujourd'hui ressemble à une grande prison pour journalistes. Certains sont réellement incarcérés, d'autres sont dehors, mais ils font profil bas. Avec ces attaques, il y a comme un effet d'écrasement sur les autres journalistes. Le harcèlement de certains force les autres à fermer leur bouche.
Alors vous parlez de journalistes emprisonnés. En 2013, au moment des événements de Taksim, vous disiez qu'ils étaient 76 en Turquie, dont 61 directement pour leur travail. Et plus récemment, là, en mois de janvier, on voit d'autres chiffres. Selon les ONG, ils seraient maintenant une vingtaine. Qu'est-ce que vous en savez ?
Aujourd'hui, pour autant qu'on puisse le savoir, il y a plus de 30 journalistes derrière les barreaux en Turquie. Il y a aussi des centaines d'enquêtes qui ont été lancées par Erdogan et son entourage. Souvent, c'est le motif d'insultes au président qui est avancé et les histoires de ce cas se multiplient. Et bien sûr, le pire, c'est que maintenant, on ferme des journaux et qu'on envoie des journalistes au tribunal parce qu'ils expriment des points de vue divergents. Et puis la dernière chose, c'est qu'il y a aussi des attaques physiques contre les journalistes. C'est tout cela qui fait de la Turquie un véritable enfer pour les journalistes. Par exemple, mon collègue de Hurriyet, Ahmet Arkan, a été frappé en face de chez lui l'année dernière. Et les locaux de Hurriyet eux-mêmes ont été attaqués, et par des membres de l'AKP. Vous voyez, il y a des menaces très claires envers les médias.
Alors le président Erdogan a souvent eu des rapports tendus, on le sait, avec les journalistes. Il leur a souvent parlé brutalement, même en public, aux journalistes de Zaman ou de CNN. Mais ces procès pour insultes qui sont nombreux, c'est quelque chose de nouveau selon vous?
Le président Erdogan ne veut entendre aucune critique contre lui ou son gouvernement. Et c'est pour ça que nous, les journalistes, on n'est pas tranquilles. Je veux dire qu'on craint toujours qu'il y ait davantage de pression sur la presse pour les jours et les mois à venir. Alors on se dit qu'on doit y résister. Sinon, il arrivera à intimider tout le paysage médiatique. Et déjà, il a commencé, il a poussé certains hommes d'affaires qui lui sont proches à acheter des journaux et des chaînes de télévision. C'est le cas, par exemple, des quotidiens comme Sabah ou Arksam. Il y a d'autres journaux aussi. En fait, on peut dire qu'il possède maintenant une gamme complète de médias qu'il dirige de son palais. C'est ce qui fait qu'en ce moment, en Turquie, c'est Erdogan qui est le maître du paysage médiatique. Parce que c'est ce qui lui permet d'exercer un contrôle serré sur l'éditorial des journaux. Donc c'est une situation qui est très dangereuse pour l'information. À cause de toutes ces pressions, on ne peut pas dire que les médias soient libres en Turquie.
Et justement, l'année dernière, on était en pleine offensive d'Ankara contre le PKK kurde et vous aviez dit à un journaliste de Libération, je vous cite, « Les médias turcs ont pour la plupart raté l'examen de l'information libre. J'ai honte au nom de mes confrères. C'est qu'ils sont contrôlés ou peureux selon vous ?»
En fait, je dirais que nous avons trois sortes d'attitudes dans les médias maintenant en Turquie liées à trois presses. L'une est étroitement contrôlée par le gouvernement, achetée par des hommes d'affaires proches du président, et c'est presque pour ainsi dire une presse officielle, une presse d'État. La deuxième, ce sont les journaux qui sont indépendants du gouvernement, mais qui subissent une pression économique de sa part, et qui ne sont pas assez libres pour dire quoi que ce soit d'embarrassant pour les autorités. Dans cette position, ils sont finalement presque mis au service du gouvernement. Et puis, la dernière, ce sont les médias d'opposition, mais ils sont très faibles. Moi, je dirige l'un de ces journaux, Cumhuriyet. C'est l'unique journal indépendant maintenant en Turquie. Mais cela devient très difficile. On subit des pressions politiques et économiques. Et les autres médias indépendants ne sont pas dans un meilleur état que nous, malheureusement.
Oui, et c'est justement dans le journal Cumhuriyet que vous aviez publié cet article sur des livraisons d'armes par les services secrets turcs en Syrie. Vous avez été poursuivi pour espionnage, divulgation de secrets d'État, emprisonné l'année dernière. Vous allez passer en procès vendredi prochain, mais vous avez été libéré par décision de la Cour constitutionnelle entre-temps. Comment est-ce que vous prenez cette affaire et ces derniers développements ?
Eh bien, vous savez qu'on a été jugé uniquement à cause de la divulgation de cette nouvelle concernant des camions des services secrets turcs qui ont discrètement emmené des armes en Syrie. On avait des photographies et des vidéos. D'une part, personne ne nous a jamais accusé de propager une fausse information, elle est vraie. Mais on nous a dit que nous étions des espions, que c'était un secret d'État. Et nous, nous avons répondu que ce n'était pas ce que l'on attendait des autorités qu'elles envoient des armes en Syrie. Pour nous, c'était un crime, et un tel crime ne peut pas rester caché, même au motif du secret. Donc voilà en quoi consiste l'affaire aujourd'hui. C'est pour ces raisons-là qu'on nous a arrêtés, même si la Cour constitutionnelle a finalement ordonné notre libération après 92 jours de prison. Et maintenant, notre procès va commencer le 26 mars, mercredi, et on va attendre la décision de la Cour. Mais le problème, c'est qu'Erdogan a déjà dit que la décision de la Cour constitutionnelle n'est pas la bonne, qu'il ne s'y soumettrait pas, et que le juge n'a pas non plus de légitimité. Alors vous voyez, si dans un pays comme le nôtre, avec un état de droit, on ne peut même plus être protégé par la loi, comment est-ce que l'on pourra se défendre dans ce genre de procès ? Oui, s'il y avait un respect de la loi, si la justice fonctionnait en Turquie, je pourrais dire, j'aurais toutes les raisons de croire que l'affaire ne tiendrait pas devant les juges. Normalement, je serais assez soulagé et confiant dans l'abandon des poursuites. Mais étant donné que tout est sous le contrôle d'Erdogan, y compris les juges, ce n'est pas facile d'être optimiste quant à la décision du tribunal.
Voilà, c'était Can Dündar, le directeur de la rédaction du quotidien Cumhuriyet. J'ai dit tout à l'heure Hurriyet, c'est faux, c'est Cumhuriyet. Et donc, en attente de ce procès pour espionnage et divulgation de secrets d'État, il était au micro de Xavier Martinet Ahmet Insel. Vous le connaissez bien sûr, Can Dündar, parce que notamment vous écrivez dans ce quotidien Cumhuriyet. Voilà, il reste des journaux libres. Ça répond
il
à ma question tout à l'heure.
Libres, surtout ce que je disais de la presse quotidienne, Cumhuriyet avec 50 000 de diffusion quotidienne moyenne. Il reste d'autres journaux comme Birgün de gauche, 20-25 000. Et puis, disons que au niveau de cette presse, il y avait Radical, malheureusement, qui était arrêté. Désormais, il s'est mis en journal Internet, et à partir de fin mars, il va même arrêter l'émission en Internet. Mais ça se réduit de plus en plus. Économiquement parlant, c'est très difficile.
Comment on fait pour tenir dans un tel contexte?
Alors, pour le cas de Cumhuriyet, il y a une solidarité des lecteurs très importante, parce que Cumhuriyet est vendu à peu près 50% plus cher que la moyenne des journaux. Donc, du coup, chaque personne qui achète Cumhuriyet quasiment finance.
Donc, c'est du militantisme d'acheter Cumhuriyet.
Et d'ailleurs, dans le cas de Cumhuriyet, 60-65% de son chiffre d'affaires provient des ventes au quotidien, alors que dans les autres journaux, il y a une dépendance à la publicité. C'était beaucoup plus importante. Et c'est par la publicité aussi que, évidemment, le gouvernement verrouille.
Quand on demande à Kandundar s'il se considère lui-même comme un dissident, il dit que non. Il dit qu'il ne se vit pas comme un dissident, il se sent tout simplement comme un journaliste qui vit sous une dictature.
Oui.
C'est votre cas aussi, vous n'êtes pas un dissident.
Jan Dündar est un journaliste qui vit sous une dictature, et il essaie de faire son métier honnête de journaliste. Moi, je ne suis pas journaliste. Mon métier...
Bien que vous écriviez, non, Cumhuriyet.
Oui, d'une certaine manière. Vous... Oui. Non, je suis chroniqueur deux fois par semaine. J'écris ce que je veux dans Cumhuriyet. Moi, je suis un opposant. En Turquie, je suis un opposant. J'ai participé à la fondation d'un petit parti vert gauche en Turquie. Je me suis toujours défini comme socialiste, et je suis un opposant, pas simplement au pouvoir d'AKP. J'ai jamais voté pour ce parti. J'ai jamais appelé à voter pour ce parti. J'ai toujours voté pour les partis de gauche et appelé à voter pour l'alliance des Kurdes ou des gauches, etc. Mais même aujourd'hui, je suis beaucoup plus opposant à AKP, je suis vraiment en position de dissidence par rapport au projet de régime autocratique personnalisé que Tayyip Erdogan veut mettre en place sous couvert d'une refondation civilisationnelle. Ce qui est inquiétant en Turquie, c'est pas simplement que Tayyip Erdogan veut diriger le pays par une main de fer, c'est qu'il veut aussi changer les codes civilisationnels de la Turquie. Il veut mettre en place des repères beaucoup plus conservateurs, pieux, musulmans, et surtout hiérarchiques, machistes, nationalistes. Et tout ceci font que, je pense, au-delà même d'opposition, il faut une rupture épistémologique, une rupture au niveau idéologique qu'il faudrait qu'on puisse défendre, et en tout cas ne pas se soumettre.
Pour clore cette émission, Ahmet İnsel, on va prendre la direction de l'Égypte.
La mère donne la vie dans une très grande douleur, mais Dieu dit qu'elle entrera au paradis pour avoir donné la vie. Cette douleur est la pire des douleurs, après celle de la brûlure. Mais la mer retrouvera la paix. Il en est de même pour le printemps arabe. Les gens se sont éveillés, ils souffrent, d'autres sont morts, de mauvaises décisions sont prises, puis remises en cause. Pour moi, le printemps arabe a tout juste commencé. On reprend à peine notre souffle. C'est encore douloureux, incertain, mais nous sommes sur le bon chemin. La révolution m'a aidé à penser de manière plus globale. Elle nous a permis de surmonter notre peur. Nous n'avons plus peur de rien.
Nesma Ramadan, étudiante en art appliqué au Caire, Nial Saad Zaghloul, cofondatrice du mouvement Basma, un extrait d'un documentaire Tahrir, ma révolution, deux figures militantes de cette révolution égyptienne. On va retrouver un journaliste égyptien, c'est Hussein El Ganeni. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes activiste, membre de Hizb al-Desturi, qui veut dire le Parti de la Constitution, qui a été cofondé par Mohamed El Baradei en 2011. Que sont devenus les jeunes activistes de la place Tahrir? Est-ce qu'ils poursuivent leur combat politique, et comment est-ce qu'ils sont traités par l'actuel gouvernement, Hussein El Ganeni?
Ils sont persécutés. Alors, tout simplement, ils sont emprisonnés. Ils subissent beaucoup de pression de la part du régime en place. La liberté qu'ils ont eue juste après la révolution du 25 janvier a subi beaucoup de coups sécuritaires, autoritaire au fil des années. Sous la présidence de Mohamed Morsi et également en ce moment sous la présidence de El-Sisi.
Alors il y a les ONG activistes pardon, de la place Tahrir, il y a bien sûr le réseau des frères musulmans dont on sait qu'il a été l'une des cibles privilégiées du régime actuel, et puis il y a aussi les journalistes, on en parlait avec Ahmed Insel. Novembre dernier, un jeune journaliste défenseur des droits de l'homme a été emprisonné, Osam Bagat, c'est lui qui avait fondé l'initiative égyptienne pour les droits personnels, c'est devenu l'une des plus importantes associations de défense des droits de l'homme, c'est un homme qui depuis longtemps dénonce les atteintes aux droits de l'homme, déjà à l'époque de Moubarak et puis ensuite sous Morsi. Cette fois, le régime du nouveau président El-Sisi lui reproche une série d'articles sur sa politique antiterroriste. L'un de ses derniers articles, qui remonte à août 2015, était consacré à la condamnation d'une vingtaine d'accusés, de personnes en tout cas accusées d'avoir conspiré avec les frères musulmans pour renverser le régime. Sauf que dans son cas, il a été assez vite libéré, preuve que la pression exercée sur le régime par la communauté internationale a eu des effets, Hussein El-Ghanini.
Tout à fait. Et Hossam Bahgat, c'est un cas parmi d'autres. Hossam Bahgat, où son cas a été beaucoup médiatisé parce qu'il était connu un petit peu dans les milieux de défense des droits de l'homme internationaux. Mais le régime porte des coups vraiment très durs en ce moment à tous ceux qui s'opposent à la politique intérieure et internationale d'Abd al-Fattah el-Sisi. Le problème avec ce qui se passe en ce moment, c'est que c'est un retour de l'appareil répressif de manière très violente, aveuglée, qui nous mène dans un conflit générationnel entre guillemets, parce que il vise beaucoup des jeunes journalistes ou des chercheurs, et c'est pas que les journalistes et les chercheurs aussi, parce que tous les militants de droits de l'homme, tous les militants pro-liberté, pro-démocratie sont visés par l'appareil répressif.
Et par ailleurs, Osam Bagat, il est toujours sous la menace d'une inculpation pour publication de fausses informations portant atteinte aux intérêts nationaux. Donc ça veut dire qu'il est encore sous pression, cet homme-là. Il a été libéré, mais vous dites-vous, Hussein Ghalini, qu'il y a un durcissement de ce régime à l'égard des journalistes. Il y a par exemple cet exemple d'un blogueur qui s'appelle Temur El-Sopki, qui vient d'être condamné à 3 ans de prison avec travaux forcés pour avoir propagé de fausses nouvelles. Alors en fait, j'ai regardé ce qu'il avait dit. Il a dit sur un plateau de télé que 45% des femmes mariées du pays étaient disposées à l'immoralité et à tromper leur mari, ce qui est aussi stupide qu'invérifiable, mais en tout cas, ça ne mérite peut-être pas la prison, ce qu'il va devoir maintenant assumer, hein, Hussein El-Ghanini.
Alors, le problème en Égypte, c'est de manière un peu plus générale, c'est que tout le monde s'exprime dans les médias pour dire n'importe quoi.
Hey.
Que ça soit des journalistes qui font bien leur travail avec un travail d'investigation, ou des personnes qui se disent ou s'autoproclament journalistes et spécialistes des questions qui maîtrisent pas, qui passent dans les médias pour juste parler, dire, donner des informations comme ça. En fait, le problème en ce moment, c'est que l'opinion publique est biaisée par ce manque de professionnalisme dans le métier, et du coup je pense aussi que le régime profite un petit peu de ce flou autour du métier journaliste pour attaquer des cibles pour lui importantes, mais pour la société égyptienne passe inaperçu un petit peu.
Ce qui est étonnant dans le cas de l'Égypte, pardon de vous couper, Hassan El-Ghanini, mais c'est que visiblement, bien sûr que le pouvoir judiciaire est un outil de répression pour le régime, mais l'opinion publique a aussi une très forte influence visiblement sur les condamnations. L'avocat en droit de la personne, Gamal Ed, affirme que les condamnations ou les acquittements ne se décident pas en fonction de la loi, en fonction des textes, mais qu'ils se décident en fonction des pressions et de l'opinion publique. C'est votre impression également ?
Alors, l'opinion publique, je ne suis pas tout à fait d'accord, mais c'est surtout la pression politique. C'est-à-dire que si on veut cibler X personnes ou X organisations, on va trouver une trouesse juridique pour la condamner. S'il faut absolument, dans un deal obscur politique entre le régime et, par exemple, Et je vous donne un exemple, la confrérie des frères musulmans. Pour libérer certains cadres des frères musulmans, on va trouver une prouesse juridique pour pouvoir les libérer. Mmh. Le problème, c'est que le pouvoir judiciaire n'est pas indépendant en Égypte. Mmh. Il est dans la main de l'appareil de l'État. Beaucoup moins dans la main de l'appareil de la rue égyptienne ou l'opinion publique, mais surtout c'est un outil de répression dans la main du régime en place.
Ahmed Insel, réaction. Bien sûr, comparaison n'est pas raison. L'Égypte n'est pas la Turquie, mais on y voit des points de
L'Égypte, malheureusement, c'est une dictature militaire. En Turquie, nous avons encore l'espoir que par le biais des élections, on peut changer les choses, et ce qui nous permet de garder vraiment le terme un minimum de démocratie en Turquie. Mais la tendance est de plus en plus à un renforcement de cet autoritarisme. De plus en plus, vous savez, on commence à utiliser pour le cas turc, pour le cas russe, avec chacun des différences, ce mélange de démocratie et de dictature, c'est ce concept
de la fameuse autocrature, de démocrature, pardon. Oui.
Et en Turquie, j'ai commencé à rédiger des articles là-dessus. On a essayé de trouver l'équivalent en langue turque, parce que démocrature, c'est le russe. Hein, c'est les Espagnols, ils appellent démocrador. Et nous, de plus en plus, je pense qu'on va utiliser le terme de démocrateur, c'est-à-dire démocratie et dictateur. Et dans ce mélange de démocratie et dictature, évidemment, il y a des moments où la dictature est au premier plan, et à certains moments, un minimum de démocratie. J'espère que ce minimum de démocratie nous permettra d'élargir de plus en plus la démocratie. Nous gardons l'espoir de pouvoir transformer la dictature par la démocratie.
Vous aurez reconnu Ahmet İnsel, la marche turque, mais par Fazıl Say.
Oui.
Pianiste turc, dissident lui aussi.
Dissident.
Merci beaucoup à Hüseyin Elganini d'avoir été avec nous par téléphone. Et puis un grand merci à vous de nous avoir accompagnés à Ahmet İnsel pour ce troisième volet sur les dissidences. Je rappelle votre ouvrage paru l'année dernière, La nouvelle Turquie d'Erdogan, du rêve démocratique à la dérive autoritaire, qui était paru à La Découverte. Merci beaucoup d'être passé dans nos studios.
Bonne journée. Au revoir.